Non, mais pourquoi il dit qu'il s'y connaît? Mais sérieux? Mais non!
Elle a l'air tellement sûre d'elle, je... Non, mais je peux pas lutter. Non, ça doit être une experte.
Non, mais en fait, il y connaît rien. Et moi, j'y ai cru.
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. La dernière fois, nous avions parlé du syndrome de l'imposteur. Cette fois-ci, nous allons parler de ce qu'on appellera son opposé, le biais cognitif connu sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Très simplement, l'effet Dunning-Kruger, ou effet de surconfiance, est un biais cognitif selon lequel les individus les moins qualifiés dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences. Dans le niveau compétition, je vous présente Mac Arthur Wheeler. Je vais vous raconter son histoire parce que c'est lui, entre autres, qui est à l'origine de ce biais cognitif et de son étude. Alors en 1995, à Pittsburgh, aux États-Unis, Mac Arthur Wheeler a décidé de dévaliser deux banques à visage découvert en plein jour. La vidéo de surveillance passe au journal TV et bien sûr, il est très vite arrêté. Pourtant, il était persuadé d'avoir trouvé une technique imparable. Il s'était tout simplement enduit le visage de jus de citron. Il était persuadé que, tout comme l'encre invisible, cela le rendrait indétectable aux yeux des caméras. La police lui a montré les vidéos de surveillance et il a été très surpris de voir son visage. Il leur a même expliqué qu'il avait testé le jus de citron avant. Il avait pris une photo avec un Polaroid et son visage n'était pas apparu. La police a jugé qu'il s'agissait probablement d'un souci sur le film, d'une manipulation de l'appareil ou de jus de citron dans les yeux. En tout cas, lui était convaincu de sa méthode et il n'en démordait pas. Et c'est donc ainsi que les psychologues David Dunning et Justin Kruger ont décidé de se pencher sur son cas pour comprendre comment quelqu'un d'aussi ignorant pouvait être aussi sûr de lui. En 1999, les deux auteurs que je vous ai cités ont réalisé plusieurs études sur de jeunes étudiants en psychologie de l'université de Cornell aux USA. Ils leur ont fait passer des tests et ensuite, ils ont demandé à chaque personne d'estimer son propre classement par rapport à l'ensemble des participants. Ils ont découvert que si les étudiants compétents ont plutôt bien estimé leur classement, les moins compétents, eux, l'avaient largement surestimé. Cette corrélation démontre ainsi que les moins qualifiés dans un domaine ont tendance à surestimer leurs compétences. Quand on manque de compétences justement, comment peut-on être en capacité de se rendre compte de ce qui nous manque? A l'inverse, autre résultat plutôt étonnant de leurs études, les personnes avec de réelles compétences ont-elles tendance à les sous-estimer? Notamment parce que elles pensent que ce qui leur semble facile à elles l'est a priori également pour tous les autres. Et oui, vous voyez là comment les deux peuvent se rejoindre, le syndrome de l'imposteur et le biais cognitif de Dunning-Kruger. D'ailleurs, Darwin l'avait bien compris, lui qui disait « L'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en soi que ne le fait la connaissance ». Alors, quel lien avec nos atypiques du cerveau, justement? Nous l'avons vu la dernière fois, lorsqu'on est victime du syndrome de l'imposteur, il s'agit en réalité souvent d'un mélange entre mauvaise estime de soi, complexe d'infériorité et autres stress que l'on retrouve fréquemment, notamment chez les hauts potentiels intellectuels. Alors, imaginez, au sein d'une entreprise par exemple, d'une équipe, mettre ces deux profils en parallèle. Entre une personne qui se vante de son expertise et une autre qui certes va délivrer des choses pertinentes mais qui estime ne pas être experte et ne se met pas en avant, voire se mettra volontiers en retrait face à quelqu'un qui s'affirme expert, que se passe-t-il? Vous, si vous étiez manager, lequel vous choisiriez? En général, le manager va préférer en tout état de cause faire appel à un expert dans le domaine ou quelqu'un qui se dit expert dans le domaine. Après tout, si quelqu'un le dit avec tellement de conviction, c'est bien qu'il y a une raison derrière, alors que la personne qui ne s'en vante pas, probablement ne se sent pas au niveau, donc elle sera probablement moins pertinente. Je vous laisse imaginer la suite que vous avez d'ailleurs peut-être déjà vécue. Au final, le soi-disant expert ne sera pas à la hauteur attendue et vendue, voire survendue, et le manager demandera peut-être en second temps à l'autre personne de venir rattraper le projet. En s'étonnant au passage que le non-expert soit au final plus compétent que la personne qui s'en vantait, voire même en lui en voulant d'avoir caché ce talent et mis en péril l'équipe. Pourquoi se méfier de ce biais de Dunning Kruger, me direz-vous, et quels impacts ? Eh bien, tout simplement, cette surconfiance peut avoir des effets désastreux sur une équipe ou une entreprise, parce que ça va faire recruter des personnes qui vont sembler très confiantes, mais qui sont en réalité peu compétentes. Ça va nuire à la productivité, ça va également détériorer l'ambiance de travail, ça va créer des tensions et des conflits, ça va augmenter le stress de l'équipe, ça va empêcher les projets d'avancer et le travail de groupe, et ça peut engendrer un sentiment d'injustice dans l'équipe si le collaborateur surconfiant se voit promu ou augmenté alors qu'il n'est pas à la hauteur. Et en dernier, ça peut nuire évidemment à l'image de l'entreprise auprès de partenaires, clients ou prestataires. Pour revenir sur le sentiment d'injustice, ce sont des choses que l'on retrouve très fréquemment par rapport à des profils atypiques qui justement ne comprennent pas et trouvent injuste de rester sans être repéré ou sans parfois être promu, alors que les compétences sont là. Mais comment peut-on se tromper à ce point et être victime de ce biais de Dunning Kruger ? Bah, tout simplement, on a souvent tendance à confondre confiance en soi et compétence. Et la clé est vraiment là. Quelqu'un qui a l'air sûr de soi est perçu comme plus compétent et se retrouve ainsi souvent au poste clé. Tout comme un manager ou un recruteur aura plus tendance à faire confiance à quelqu'un d'ignorant mais sûr de soi plutôt que quelqu'un de plus compétent mais qui n'ose pas s'affirmer. Comment démasquer les personnes qui sont sur ce biais de Dunning Kruger ? Tout d'abord, il faut être capable de déceler ce qu'on va appeler un trop-plein de confiance. Il y a 4 signes qui ne trompent pas. 4 signes qui sont évidents quand vous les connaissez. Tout d'abord, ce sont des personnes qui, 1. Ont beaucoup de mal à se remettre en question. 2. N'acceptent pas la critique négative. 3. Ne possèdent pas les compétences pour faire la part des choses entre les personnes douées et les autres. Et enfin, 4, se surestime par rapport à ce qu'il en est réellement et non pas par rapport à autrui. Il ne s'agit pas de se comparer à quelqu'un d'autre, mais par rapport à ses compétences prétendues. Bon, une fois qu'on a repéré ces personnes, comment gérer cela au mieux pour éviter les effets désastreux sur le reste de l'équipe, d'autant plus s'il y a des atypiques ? Le professeur Dunning, justement, expliquait que souvent, la principale raison pour laquelle certains collaborateurs sous-performent au sein des entreprises, bah c'est tout simplement qu'ils ne savent pas qu'il est possible de mieux faire ni reconnaître de bons résultats. Et donc là, il y a 5 clés pour aider. Tout d'abord, prendre du recul, en soi c'est toujours utile. Deuxièmement, donner des feedbacks réguliers. Troisièmement, émettre des critiques constructif, c'est-à-dire se baser sur des faits concrets pour montrer les failles et pointer spécifiquement ce qu'il faut améliorer. Si la personne est persuadée d'avoir raison, prouvez-lui que non. Quand on met la personne devant des données concrètes, il pourra améliorer ses compétences et peut-être plus tard, reconnaître ses erreurs passées. Bon, on peut également, en 4, suggérer une formation ou un accompagnement. Et 5, reconnaître les progressions et les encourager. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on est sur des choses totalement à l'opposé du syndrome de l'imposteur, et c'est pour ça que c'est très intéressant de les mettre en parallèle, parce que c'est vraiment opposé, mais on voit que les clés pour aider restent globalement les mêmes. Donc en ça, c'est vraiment un atout pour les managers de se dire que quelle que soit la personne en face, on peut aider ses collaborateurs et on peut les aider avec finalement des clés similaires. Et dernière chose, pour ne pas sombrer soi-même dans cet effet de Dunning-Kruger, il y a plusieurs solutions qui existent, bah oui, puisque ça peut nous arriver aussi. Il y a deux points qui sont essentiels. Déjà, assumer ses compétences, ses axes d'amélioration et la capacité à progresser. Ne jamais se survendre, notamment en entretien. Et puis toujours, toujours, toujours veiller à élargir son cercle de compétences et de connaissances. Sortir de sa zone de confort, s'intéresser à de nouveaux sujets. Et là-dessus, les atypiques du cerveau ont en général un cran d'avance. Et surtout, ne pas se sous-estimer. Oser s'affirmer et avoir confiance en soi. J'espère que vous aurez appris des choses sur cet effet Dunning-Kruger et comment il vient en parallèle du syndrome de l'imposteur. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.